Vous écoutez le magazine sur Canal Sud et c'est l'heure d'un documentaire sonore signé Benoît Bory et Éric Dourel et qui s'intitule « Se parler pour se soigner », « Se parler pour soigner » même tout court. Et avec nous, Éric, un des deux réalisateurs que connaissent bien les auditrices auditeurs de Canal Sud et Alice, infirmière et animatrice qui travaille pour l'association AIDS. Hein. Salut.
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 Et re-salut.
Ouais, oui, effectivement, en fait, en octobre dernier, vous nous avez branché, toutes les deux, à Benoît et à moi, donc les deux Alice nous ont demandé de voir si on ne pourrait pas faire une série d'entretiens avec des usagers de drogue d'aide et également avec des personnels soignants de Joseph Ducoin. Peut-être vous pouvez mieux que moi expliquer pourquoi vous nous aviez fait venir, avant peut-être qu'on écoute le documentaire pour que tout soit super clair.
Toutes les deux avec Alice en tant qu'infirmière et moi en tant qu'animatrice de aide, on anime un lieu qui est un CARUD, un centre d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, de l'association aide, qui se situe à Saint-Cyprien, où les personnes là-bas viennent chercher du matériel propre de consommation. Ils viennent aussi chercher un espace sécurisé pour se poser, parler de consommation et puis boire le café, etc. Et du coup, on a Alice en tant qu'infirmière, peut-être tu peux.
Alors, ce qui se passe, moi j'y suis que le jeudi, mais vous verrez, on va vous expliquer tout ça dans le reportage. On a été branchés, donc je crois que c'était un après-midi où on travaillait toutes les deux, ouais. Et on a été branchés par une personne qui disait « Oh là là, moi j'en ai marre, j'ai des problèmes de santé, j'arrive plus à aller à l'hôpital, je sais pas ce qui se passe en ce moment, les infirmières sont pas gentilles, dalilala. » On s'est dit « Ah merde, pourquoi tout ça ?» Et donc elle nous dit « Ce serait bien qu'on les rencontre pour savoir ce qu'elles pensent de nous, pourquoi ça marche plus, tout ça. » Donc on s'est dit « C'est une bonne idée. » Et puis on a réfléchi ensemble, et on s'est dit « Ça va pas être facile, donc ce qui serait bien peut-être, c'est d'avoir un documentaire à leur faire écouter et après peut-être à pouvoir les rencontrer comme ça. » Et c'est d'où cet après-midi-là où tout est parti en fait. Du coup, moi je me suis dit, c'est vrai qu'on connaît des gens qui savent bien faire ce genre de choses. Et on a appelé Eric et Ben, quoi. Voilà, ça s'est passé à peu près comme ça, hein, Alice.
On cherchait un outil pour créer du lien, voilà. En effet. Et notamment avec l'hôpital du coin qui est situé juste à côté du CARUD de Aide.
Et dans lequel aussi je travaille, je fais les deux.
Et qui historiquement reçoit ce genre de public aussi. Donc du coup, en fait, on a fait toute une série d'entretiens, trois entretiens à Aide, où on a recueilli du son, on l'a monté. On en a fait un petit doc et ce doc, on a pris rendez-vous avec le personnel soignant de Aide. Ça n'a pas été simple.
Joseph Ducoin.
Avec les infirmières, en fait,
le rendez-vous, c'était simple.
Ça a été après compliqué d'arriver à les choper pour vraiment leur faire écouter le truc. Après, ça prend parce que
pas du tout réticent l'hôpital quand même.
Non,
à aucun moment.
Pas réticent, mais tout ça est très long. Ça ne fait pas 5 minutes. Voilà, mais après, pas du tout réticent. Et du coup, on leur a fait écouter le premier montage qu'on avait eu avec les entretiens qu'on avait eu avec les gens de Aide, hein, les usagers. Et là-dessus, on en a fait ensuite un gros un documentaire qui a servi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, à quoi ça a servi. Peut-être que le mieux, c'est de commencer à l'écouter.
Ouais.
Allez, donc documentaire, donc Benoît, Éric.
Se parler pour soigner.
Je suis rentrée, j'ai pris le couloir, direction les urgences. Le petit panneau, je me suis assis en face du panneau, on délivre pas de méthadone. L'accueil, la dame derrière, c'est la secrétaire médicale derrière la baie vitrée. J'ai attendu dans la salle d'attente. On m'a ouvert la porte et j'ai été accueilli. J'ai dû attendre dans une petite pièce individuelle. Longtemps. Oui, longtemps. Mais bon, c'est les urgences. Enfin, il n'y avait pas grand monde ce jour-là, mais j'ai bien attendu une heure quand même. Après, il y a quelqu'un qui est venu me poser des questions sur ce que je consommais et ce que je consommais pas. Et là, j'ai été monté au bloc. Là, je me rappelle qu'on a essayé de me faire un prélèvement. On m'a demandé si ça ne me dérangeait pas que ça soit quelqu'un qui commence de me le faire. J'ai dit que ça ne me dérangeait pas, mais que ça risquait d'être compliqué. On m'a dit, vous inquiétez pas, là, comme d'habitude. J'ai dit, oui, non, mais ça va quand même être compliqué. Elle l'a quand même fait, elle n'y est pas arrivée. On m'a envoyé d'autres personnes qui ne sont pas arrivées. Finalement, on m'a envoyé... Je sais pas si c'est pas un anesthésiste qu'on m'a envoyé ou un chirurgien. Il y est arrivé, mais ça a été long et douloureux. Je me suis fait ouvrir mon œuf, je me suis fait soigner et au réveil. Où je me suis retrouvée avec une infirmière ou une aide-soignante en train de me caresser le visage. Il a passé 10 minutes à me caresser la tête en me disant « c'est dommage, tu t'abîmes les veines, tu te rends pas compte, t'as pas l'air méchante, t'es une gentille fille, tu te rends compte de ce que tu fais. » Donc j'avais plus envie d'y retourner. C'est gênant parce que t'as plein de gens autour de toi et t'en as une qui dit oh, c'est dommage, t'as pas l'air méchante, le mal que tu te fais, t'as pas envie d'y retourner. T'as envie d'écourter le moment, t'as pas envie de répondre, t'as envie d'écourter le moment. En plus, ça faisait déjà une demi-heure qu'ils essayaient de me prélever, donc j'avais envie qu'on en finisse et j'avais envie de partir.
Même si on a des bonnes expériences, il y a toujours la réflexion de « Ah, mais est-ce que je vais être jugée ? Est-ce qu'ils vont m'écouter aussi ?» Parce que des fois, c'est vrai que voilà, même si j'ai été bien reçue, il y a eu plusieurs fois où voilà, j'ai demandé à faire moi-même un prélèvement, où j'ai expliqué « Non, il ne faut pas piquer là. » Et j'étais pas, par contre, on ne m'a pas trop écoutée. Voilà, il y a des infirmières, c'est leur métier, effectivement. Mais si, par exemple, je dis que voilà, sur ce bras, c'est impiccable, et qu'on essaye 8 fois, au bout d'un moment, je me dis la prochaine fois, je ne viendrai pas, quoi. Du coup, ça freine. Il y a toujours au minimum quelques heures de réflexion, de préparation. Ouais. Et pendant l'attente aussi. Des fois, même, je vais aux urgences et le temps d'attendre, je change d'avis. Ouais. Selon si je vois telle ou telle infirmière, tel ou tel médecin aussi. Parce qu'il y a des médecins qui sont... pareil, beaucoup de stéréotypes.
J'ai plus d'un visage en tête qui me montre des trucs, des abcès, des trucs de dingue, leur dire d'aller à l'hôpital et les gars qui me disent « Non, je préfère me soigner tout seul, je vais me l'ouvrir tout seul. » Non, mais t'es fou. Ouais. Bon, tu peux pas forcer quelqu'un, tu peux le conseiller, mais tu peux pas le forcer. Hein. Après, J'ai des idées de gens qui ont tellement attendu qu'on leur a parlé après de leur couper un. Il y en a un, il s'est fait amputer, hein, je veux dire. Ça peut être sérieux. Il va pas vouloir y aller, Lui, il a pas non plus changé ses méthodes, donc. Manque de prudence, peut-être de sa part, et puis. Il a trop attendu pour se faire soigner. On a dû lui couper un bout de champ. Je pense que ces gens-là, ils font un métier qu'ils aiment. C'est pas vraiment des efforts. Non, c'est vraiment un manque de connaissances. C'est pas. Je pense pas que la nana qui m'a caressé la tête, elle faisait ça pour me faire du mal. C'était parti d'une bonne intention. D'y aller sans peur. De laisser ses craintes et ses peurs de côté. De penser que ça peut être ton boulanger, ton livreur, ton voisin, un ami de ta famille. Okay, voilà. La crainte, elle vient d'où ? Des idées reçues. Que quelqu'un qui consomme est violent, que quelqu'un qui consomme peut voler. De mauvaises expériences aussi. Ça peut venir aussi de mauvaises expériences.
Ici, on est au Carude de Aide de Toulouse. Le Carude, ça veut dire centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. C'est des endroits où les personnes peuvent venir chercher du matériel propre de consommation, principalement du matériel pour les gens qui consomment par voie intraveineuse.
C'est pas parce qu'il crie, l'autre, il est mal éduqué, là.
Et puis se poser, prendre un café, prendre un petit temps où ils vont pouvoir rencontrer des personnes sans jugement par rapport à leur consommation pour se poser et se déposer un peu.
Tu connais ça, le local, ici ?
Non, ça prend un peu de jeu.
Oui, c'est sympa. On a un petit coin, salon. Là, on a le matériel. Tout n'importe quoi, de l'alcool, la crème, tout ce qu'on a besoin pour l'injection.
Certes, on est consommateur, mais à un moment donné, on n'est plus dans le plaisir. Donc c'est aussi qu'on a une souffrance. Et c'est vrai que peut-être ils voient beaucoup de toxicomanes, etc., qu'ils en ont marre. Mais c'est d'autant plus douloureux d'être mal reçu que d'être mal soigné, en fait. Du coup, ça laisse beaucoup d'amertume.
Ah ouais, puis c'est vrai, ici, on a le dépistage. Super bien, ça, les dépistages, minutes de l'hépatite.
Alors, on a
le VIH.
Pour l'instant, on est
au VIH. C'est pas mal, ça.
Normalement,
c'est
à
pas
partir
mal, putain,
de...
ça, on te prélève sur le doigt et en deux secondes, en deux minutes, t'as le résultat.
Non, c'est pour en arrière.
Non, c'est pas trois mois en arrière.
Ici, on a une réponse claire et sûre de ta sérologie il y a trois mois pour le VIH.
Ah, l'hépatite, maintenant, c'est mis.
Pour l'hépatite, ce sera de la même manière, mais de l'hépatite, on va faire.
Ah, du coup, j'ai fait, moi. Et je pensais que c'était trois mois, et non.
Tu l'as fait par prise de sang ?
Ouais. J'ai fait mon prélèvement ici, et après, je suis là, du coup. Avec Alice, on a eu le résultat le soir même. Sur le jour même.
Okay.
Donc j'étais négative, j'étais pas négative trois mois avant, j'étais négative au jour, là, tout de suite. Salut, grand.
Si je pouvais, je passerais.
Ah, caralho, je t'en prends, n'y expose, mon cabron. Vais là, je trans mon casaque, cabron. Mais non, je vous ai...
International,
hein.
Voilà, ils savent pas comment s'y prendre.
International.
C'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on puisse communiquer avec eux et que eux aussi puissent communiquer avec nous, parce que j'imagine que c'est pas forcément non plus évident quand t'es personnel soignant de te retrouver face à quelqu'un. Déjà tu peux pas lui faire ses prélèvements, enfin t'as plein d'idées reçues, tu sais pas, t'as des idées peut-être que cette personne elle va être violente avec toi ou peut-être qu'elle va te voler, enfin se rendre compte que on pourrait être ses voisins, ou le vendeur de la boulangerie en bas chez elle, enfin que
non.
Ça peut être tout et n'importe qui.
amigo.
Alors, on se définit comme nous, personnes accueillies, intervenants du CARUD Aide de Toulouse, voilà. Ça vous va ?
Suite à ça, j'ai eu un abcès et j'osais pas aller me soigner.
Nous.
Et si on est dans une période aussi un peu plus fragile, ça peut entraîner beaucoup d'autres choses, voire une dépression, voire... voilà.
Investi. Et intervenant.
Et après, nous aussi, du coup, stigmatiser tout le système médical et se dire...
CARUD de Aide de Toulouse.
Maintenant, à chaque fois, on va être vu, non pas comme un patient, mais comme un toxicomane.
Nouveau voisin aussi.
Voisin.
Non, voisin.
Voisin.
Nouveau voisin, quoi.
Et donc, c'est à la suite de ça qu'on a pensé qu'on pourrait essayer de... de créer un échange avec le personnel soignant du coin pour qu'ils comprennent notre peur à y aller, par exemple.
Nous, ouais.
Et que nous aussi, on puisse comprendre la réticence qu'ils ont à soigner des gens dans notre position pour que l'échange soit beaucoup plus facile.
Souhaiterions avoir un temps, tu disais, convivial.
Une rencontre, non ?
Ouais, souhaiterions vous rencontrer.
C'est à 300 mètres du coin. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui montrent à Alice différents bobos du plus...
partagé avec vous, dans un moment convivial.
Du plus simple au plus compliqué, parce qu'il y a vraiment des gens, ils ont des abcès, des trucs gangrénés.
Convivial. Ce qu'on souhaite partager avec eux, c'est...
Et Alice leur dit d'aller en face, mais les mecs, ils font pas le pas d'aller en face. Donc,
et bienveillant.
Je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de désagréments.
Les liens, parce que normalement, ouais, faut qu'on reste ensemble, mais moi je vous dis,
on...
ouais.
Partager.
Ouais. Combien les bienveillants, nos ressentis.
D'où ce projet, je pense qui va avoir un impact, enfin pour moi.
Alors, nous, personnes accueillies, investies, intervenants du CARUD de Aide de Toulouse. Nous, vos voisins, nous souhaiterions vous rencontrer pour partager avec vous, dans un moment convivial et bienveillant, nos ressentis et expériences communes.
Parce que, de rencontrer le personnel soignant, qui eux aussi peuvent avoir des appréhensions. Et nous, on n'a jamais de retour du personnel soignant. Donc on pourrait aussi se mettre à leur place, en découvrant leur manière à eux de nous voir.
Super, cool,
et pour du coin, on fait quoi? On leur prépare un goûter. Il faut leur donner envie de venir.
Ouais, mais tu sais, on avait évoqué l'idée de pouvoir faire des gâteaux et puis leur apporter gâteaux.
Parce que
et
si après le boulot, il faut leur motiver par un truc et l'estomac, quoi.
Ouais, carrément. Et les gâteaux.
À midi, ça passe bien, un truc salé, un truc sucré, on leur amène.
Mm-hmm. Ouais.
On leur mettra pas de stupeux dedans, de toute façon ça coûte trop cher, on peut pas partager. Ils s'inquiètent pas. Bon, non, c'est pour nous, ça. On leur mettra du vrai sucre. La drogue, ça se partage pas.
Non, ça coûte trop cher.
Non, je vais aller en chercher une, arrête.
Non, bon, si on peut rester debout, c'est pas...
Je trouvais ça surprenant, parce que je pensais pas du tout qu'ils avaient ce ressenti-là. Et même, ça m'en fait rire. Voilà, parce qu'on en a tellement reçu. Ça fait des années, ça s'était toujours bien passé, même quand des fois, ils avaient des accès de colère et tout, on temporisait. Mais là, ouais, c'était vrai, très surprenant qu'ils pensent ça de nous.
Ils sont partout. Ouais.
Nous aimerions organiser une rencontre.
L'idée, elle est vraiment partie des personnes accueillies, comme on l'avait raconté, hein, c'est vrai. Constructive, allez. C'est-à-dire que c'est parti de personnes accueillies, c'est parti de personnes accueillies qui disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer le lien qu'il peut y avoir entre les personnes consommatrices qui viennent ici au CARUD et l'hôpital du coin qui est juste à côté.
J'étais pas en colère, mais j'étais choquée quand même que déjà qu'on dise ça sur les soignants. C'était difficile à entendre.
Non, moi, je sais pas. Par rapport à la bande, je pense qu'il y a des, pistes pour qu'on améliore les conditions d'accueil.
Qu'est-ce que t'en penses, Alice? Pardon. Regarde, dans un futur proche, nous aimerions organiser une rencontre constructive pour établir les bases d'une collaboration.
Fructueuse. Profitable à tous.
Profitable à tous.
Rapidement, eux ont posé le fait qu'il faudrait qu'on se rencontre, qu'on connaisse les gens qui sont aux urgences et qu'eux nous connaissent aussi et qu'ils nous voient au-delà de ce qu'on est en tant que toxicomane quand on arrive aux urgences et qu'on est en situation de détresse.
Après, moi, personnellement, au cours d'une journée, je n'ai pas le temps d'analyser tout ce que j'aime, j'aime pas. Et j'ai pas le temps de classer parce que je l'ai pas matériellement, ce temps-là, en fait.
Parfois, on a l'expression, ils ont déversé un bus à l'entrée des urgences. C'est-à-dire que tu as 20 personnes qui arrivent en même temps et tu dois répondre à tout le monde en même temps, etc. Et c'est là où justement l'équipe doit avoir un jugement pertinent. C'est qui on va prendre en premier sur ces 20 personnes qui sont arrivées en même temps. Et donc là, c'est clair, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, elles courent partout. Le médecin aussi, il court partout parce que lui, il doit voir qui aussi doit être vu en premier, qui les filles, qui doit être prélevé, qui doit avoir ci, ça, ça. Il y a d'autres jours où ça va être plus calme, où on va avoir plus le temps de tenir la main à quelqu'un, de lui donner la main, plus le temps d'avoir de l'empathie pour le patient, plus le temps de mettre du relationnel en place. Mais malheureusement, ces journées n'existent pas trop. Parce que ça serait bien qu'elles existent un peu plus. Mais voilà, mais c'est très, très, très difficile. Le rythme de travail est tendu. On fait au mieux, voilà. On fait au mieux avec le temps qu'on a pour chaque patient.
Il y aura toujours une relation de soignant-soigné. On ne vient pas aux urgences comme on va chez son boulanger, comme on parle avec son livreur ou avec un ami de la famille. C'est pour ça qu'on a une blouse blanche. Voilà. Moi, chez moi, je suis quelqu'un d'autre qu'au boulot. Parce qu'ici, je prends la fonction infirmière. Je la mets quand je la mets au vestiaire. Je la sors quand je sors du vestiaire. Je ne suis pas là pour faire tout et n'importe quoi et être quelqu'un de déluré ou rentrer dans une prise en charge psycho-affective, larmoyante avec les gens. Ça ne fait pas partie du professionnalisme.
Ça peut nous arriver quand même. Si, ça peut nous arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé de laisser aller mes émotions, de plus avoir ce truc de blues et de patient et d'être vraiment dans l'empathie, mais jusqu'à être tactile et tout. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé parce que je sais pas faire autrement. C'est ma personnalité aussi. Voilà. Oui, je devrais pas dire ça. Eh bien, désolé, c'est comme ça. Je suis ce que je suis.
On peut avoir affaire à des gens qui ont un réseau veineux qui est très, très altéré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils injectent, nous, on prélève. Ce n'est pas du tout la même démarche. Ça ne peut pas être effectué sur les mêmes veines parce que ce n'est pas du tout la même résistance qu'il faut. Et donc, même si ça prend 3 heures, je crois qu'à un moment donné, si on avait les moyens que ça dure 3 minutes, ça durerait 3 minutes. Après, il n'y a pas de ressenti. C'est notre travail. Je veux dire, le mécano, quand il va tomber un pot d'échappement, il ne se demande pas si c'est bien, si c'est mal, s'il va passer 3 heures, 12 heures. Nous, on doit piquer, et bien on pique. Voilà. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est on pique. On est obligé de piquer, donc on doit le faire. Voilà. Et on n'a pas du tout la même approche que ce ressenti-là d'acharnement. Voilà. Moins on fait mal, plus on est content, c'est tout ce qu'on peut en dire. Quoi.
Bon, alors, les grilles, la plus petite,
celle qui... J'utilise les grilles, normalement.
L'autoprélèvement, c'est une pratique qu'on a mise en place avec aide, qui est simple, en fait. Ça se fait sur les prélèvements au départ de dépistage, et puis après sur tous les prélèvements sanguins. Donc, qui consiste à laisser la personne, qu'elle soit usagère de drogue par voie intraveineuse, comme les personnes de aide ou d'autres personnes qui ont envie, donc d'introduire l'aiguille ou le cathéter dans sa veine, qu'elle considère être la meilleure, pour pouvoir après faire un dépistage sanguin, donc prélever du sang et l'envoyer à un laboratoire pour faire des analyses. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des dépistages, donc du coup ils avaient besoin d'une infirmière pour faire du dépistage. intramuros à aide pour justement les gens qui ne vont pas dans les services de soins. Je me suis proposée pour aller chez eux. Donc au départ, ce n'était que des prélèvements VHC au départ, et du coup qu'on a élargi à VIH, et maintenant on a élargi à tous les prélèvements sanguins.
C'est 2 millilitres, je crois.
Ça va, il m'en restera.
3,5. Mais bon, avec le machin là, un peu.
Chaque couleur, ça correspond à un truc.
On a réfléchi ensemble à ce qui pouvait être une alternative à ce truc de l'éloignement du dépistage.
Dans les verres, il y a.
C'est petit à petit une remise dans le soin, quoi. Donc, j'ai vu ça il y a des années, en fait, où il y avait vraiment une personne qui avait écrit dessus, en plus, qui avait, pour lui, c'était un suivi aussi de façon chronique. Donc, il avait vraiment besoin de au moins une fois par mois ou deux fois par mois de prélèvement. Et du coup, petit à petit. Il nous laissait faire, quoi.
Non,
il avait repris confiance dans le soin, tout ça, c'était...
Donc, t'as ton rendez-vous quand ?
Demain chez le médecin et le 10 chez le humain.
C'est vachement chouette, la confiance qui s'instaure, parce que c'est vachement ça, dans le soin, quelqu'un qui est éloigné comme ça, il faut y aller doucement, mollo, tout ça, et puis voilà, le mettre en confiance, c'est pas évident, quoi. Ça prend du temps et...
Et puis en plus, il y a l'histoire de l'hydratation des veines le matin.
Ouais, alors le matin, c'est encore plus compliqué. Hein. Le matin, il faut vraiment prendre son temps. Hein. Parce que les veines, elles n'ont pas eu le temps de... Justement,
c'est pas que du vent, quoi. C'est que ça marche vraiment bien, quoi. Moi, c'est super rare qu'on n'arrive pas à finir le prélèvement. En général, une fois, ça suffit, voire deux. Bon, après, c'est vraiment une complicité entre l'infirmière. Hein. C'est pas que la personne qui choisit la veine et qui introduit l'aiguille et tout ça. C'est vraiment aussi un travail à deux.
Franchement, plus tu retardes la première injection, et mieux c'est pour tes veines. C'est comme les clopes, hein, aussi. Hein.
Il y a quand même pas mal d'infirmières et des vieilles infirmières qui disent que ça fait très très longtemps qu'elles font ça, qu'elles l'ont proposé naturellement, de manière à dire humaine. Ah bon, tu utilises tes veines, et ben peut-être que tu sais toi-même la trouver, quoi, ou aide-moi à la repérer déjà. Et puis après, certainement, ça s'est passé comme ça au départ, quoi. Ce qui me paraît être le plus naturel pour une infirmière, quoi.
Donc, je les amène ce soir. Je leur dis qu'il te les faudrait avant le 10.
Nous, ça fait partie de nos axes prioritaires de pouvoir favoriser l'accès aux soins pour des gens qui ont gagné. Et puis, de fait, la consommation amène des problématiques de santé. Et donc, d'avoir des difficultés à aller vers le soin et vers le système de soins, ça fait partie de ce qu'on vit tous les jours ici.
Bon, c'est cool quand même.
Ouais, c'est cool. Hein,
tu quand vois même, là, ouais. On ne dit pas, mais bon. La classe, hein, ouais, la Vegas. Bon, du coup, tu me tiens au courant.
Je te tiens au jus.
Ouais,
tu passes un coup de rouleau demain.
Je ne nous oublie pas, et pour les autres aussi.
Ouais, c'est important que
tu
aies l'info.
J'espère que ça marche.
Je pense que, en effet, être consommateur de produits et être victime de discrimination perpétuelle par rapport à sa pratique, ça peut t'enfermer dans une forme de victimisation. Et du coup, d'avoir l'impression que c'est parce qu'ils sont consommateurs de produits qu'ils vont attendre plus longtemps aux urgences, qu'ils vont être moins bien soignés que les autres, ou moins bien considérés, etc.
C'est toi qui as voulu le taper.
Et puis d'un autre côté, c'est aussi possible qu'ils soient chiants, quoi. Et que du coup, ils soient... En effet, ils attendent aussi peut-être un peu plus longtemps que les autres. Ça peut être une réalité, mais pas tout le temps. Et que, ouais, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas non plus de solution claire. Moi, je crois vraiment que une des réponses, c'est ce qu'on est en train d'essayer de proposer, c'est-à-dire que les gens se rencontrent et qu'on humanise, tout le monde humanise. Qu'en effet, les consommateurs puissent comprendre quelle est la réalité aussi des personnes accueillantes aux urgences. C'est pas facile comme métier. Enfin, je peux entendre tout à fait que ce soit compliqué. Et que toi, tu arrives avec ta souffrance physique où il n'y a que ça qui compte et c'est légitime quand tu es dans cet état-là. Mais que de l'autre côté, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Et que c'est pas forcément facile.
Moi, j'ai fait tout le temps ça, j'y rigole. Mais ils, à force, ils en ont marre de moi. Ils disent, mais
Il est tellement chiant.
Pourquoi? Parce qu'il parle trop.
Il parle trop. Il faut.
Tu sais pourquoi.
Tu sais pourquoi. Sinon, les gens sont là. Ils parlent rien du tout. Tout.
Bon, après, c'est justement ça, moi, je trouve que j'y vois hein, dans l'avenir et dans ce projet de rapprochement. C'est plus travailler ensemble en complémentarité, ce qu'on n'a jamais fait, en fait. Les structures associatives. Alors, je ne sais pas, c'est la faute de qui, je pense, des deux, parce que c'est quand même difficile de rentrer dans un hôpital aussi et de trouver le bon interlocuteur pour arriver à bah voilà, avoir un peu de place ou d'avoir un peu de doc, ne serait que ça. J'espère qu'on arrivera à se rencontrer, à se parler, à tout ça. Bon.
Tu viens par là, comme ça, je suis mes directs. À toi aussi, bonne soirée, ciao.
Je vais voir quoi en fait, c'est comment ça va se finir quoi. J'espère que ça fera avancer les choses.
Ils vont pas tout pérer.
Allez, tata, bon courage pour demain.
Je m'échappais de bord une fois. Ils m'ont attaché des mains, des pieds et après la tête, ils m'ont. Ils vont mourir, arrêtez, je ne veux pas. Vous signez le papier, oui, je signe. Ciao. Plein de bêtes à dindan.
À bientôt.
Vous venez d'écouter Se parler pour soigner, documentaire sonore signé Éric Dourel et Benoît Bory. Éric qui est là avec nous en studio, accompagné de Alice et Alice, respectivement infirmière, donc à la fois auprès du Carud, on l'a entendu, hein, et de l'hôpital du coin.
Ouais.
Et puis l'autre Alice, elle, animatrice, donc à ce Carud de aide. Alors le Carud, on répète, hein, c'est centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Ouf.
Tout à fait.
Et donc, peut-être pour commencer déjà, peut-être nous situer à quel moment vous avez eu l'envie de ce documentaire là, et puis vers quelle période ça a été enregistré, tous ces sons, à quel moment ont eu lieu ces rencontres aussi avec le personnel de l'hôpital Joseph Ducoing.
Alors la première fois qu'on a discuté du projet, je crois, enfin la demande du projet, c'était à la rentrée, donc là en 2016, septembre ou octobre, je sais plus trop. On a contacté les garçons assez rapidement après, je pense un mois, même pas en fait, non, ça a été vite, on a déjeuné ensemble. Et vous avez commencé les interviews en novembre.
Comme des brutes, hein, dans la foulée. Quoi.
Voilà. À Noël, en fait, vous aviez fini de faire les interviews.
Voilà, on était venu passer 3 après-midi ou 4 donc, au Carud, à discuter, apprivoiser aussi les gens. Apprivoiser parce qu'en fait, tu te balades avec un gros micro. Quoi. Donc au début, les gens voilà, se disent mais qu'est-ce que c'est ce truc. Et en
oui,
fait,
quand tu reviens. C'est pas une caméra, mais quand même,
voilà,
ça va intimider. Voilà,
ouais. Tu sais, là, le micro, on dirait qu'il y a un chat qui a été greffé dessus. Quoi. Donc c'est quand même assez imposant. Et du coup, petit à petit, les gens s'y sont habitués. Quoi.
C'est particulièrement imposant et particulier dans un endroit où la confidentialité est hyper importante.
C'est ça. Et les gens se méfient de suite de ce que ça pourrait capter ou autre. Mais voilà, comme on en a rapidement discuté avec eux, pourquoi on était là, qu'ils auraient un droit d'oreille sur tout ce qui serait enregistré du moment qu'on pouvait les reconnaître ou autre. Du coup, il n'y avait jamais eu le moindre souci. Et très rapidement, ils se sont habitués à nous, quoi, en fait, quoi. Dès la deuxième rencontre, c'était dans la poche. Après, il fallait trouver, entre guillemets, des gens qui avaient vraiment envie de parler de ce problème-là. Parce que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en arrivant, en fait, avec un micro, dans ce genre d'endroit, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de choses à dire. Donc, on s'est retrouvé avec des gens qui nous ont apostrophé en disant, voilà, moi, j'ai fait un texte sur comment ça se passe aux États-Unis au niveau des drogues et tout. Donc, chaque fois, on leur dit, bon, mais ça, c'est hors sujet, quoi, par rapport à ce qu'on fait là. Mais peut-être qu'on pourra faire autre chose plus tard, quoi. Et ce autre chose plus tard, ça a déjà été fait, c'est l'émission en radio qui a eu lieu un vendredi après-midi ici pendant 2 heures, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se sont rapidement intéressés au fait que voilà, ils pouvaient avoir accès ou une porte ouverte avec une radio et notamment avec Canal Sud. Sinon, pour en revenir à ça, oui, voilà, en décembre on avait déjà terminé de faire les entretiens au niveau du Carud.
Ce qui est important, c'est que vous êtes venu plusieurs fois. Parce qu'en effet, ce n'est pas en une seule fois que la relation de confiance, elle se fait. Du coup, vous êtes venu plusieurs fois, vous avez pris le temps aussi Vous n'étiez pas que dans l'enregistrement, mais aussi dans le fait de vivre et de faire partie du paysage aussi, du Carud, et de vous poser. Et donc ça s'est fait aussi petit à petit, et ça c'est essentiel.
Oui, ce qui fait la différence aussi entre ce qu'on appelle un reportage, hein, où un journaliste va venir quelques minutes ou quelques heures, et un documentaire où il y a cette idée peut-être de longueur aussi, hein, d'installation dans la longueur, et donc de confiance forcément qui s'installe. Ouais. Et donc après ça, vous l'avez amené pour écoute donc au personnel soignant.
Pas tout de suite en fait. Pas tout de suite, ouais. Justement, avant Noël, on a été voir la surveillante des urgences. Enfin, on a écrit la lettre qu'on entend, la fameuse lettre. Et je crois une semaine après, on a téléphoné la surveillante pour avoir un rendez-vous avec elle. Déjà rien qu'avec elle. Et pour lui proposer le. Pour savoir ce qu'elle en pensait et pour lui proposer l'histoire. Quoi. Où justement, elle a dit, c'est super, moi je suis absolument partante, il faut que vous rencontrez l'équipe. Et c'est plus tard, là où ça a mis un max de temps, je crois que c'était avant Noël, je crois qu'on les a rencontrés genre en mars, un truc comme ça. Quoi. Où elle répondait plus à nos mails, il y a eu les vacances, tout ça. Là, ça a pris du temps, donc du coup... Nous, on était là avec notre premier bout de reportage. On s'est dit, c'est bête, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. On sentait déjà que ça allait être un peu longué, l'histoire. Quoi.
Et puis, ça s'est réactivé au mois de mars, hein, où en fait, toute l'équipe nous a reçus autour de je ne sais plus si c'était un goûter ou un déjeuner de midi, quoi, où on s'est pointé à plusieurs, hein, avec des usagers aussi qui étaient avec nous pour expliquer.
Des personnes accueillies.
Et du coup, voilà, c'était un peu l'effet curiosité, quoi. Beaucoup de personnels soignants sont venus écouter ce qu'on racontait. On est allé avec de quoi faire écouter directement sur place, quoi. C'est-à-dire que des soignants pouvaient se poser, prendre un appareil, mettre un casque sur les oreilles et écouter en même temps qu'on discutait ce dont il en retournait. Et rapidement, on a vu qu'il y avait des réactions, quoi, déjà, ouais, par rapport à ce qui était.
Du coup, c'était le premier passage, donc où on les entend toutes les deux parler. Après le montage a été fait plus tard, mais c'était vraiment la parole des usagers direct en live comme ça. Déjà quand on était autour de la table, c'est là, oh, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Déjà super étonné, quoi, quand même, quoi.
Moi, j'aimerais dire par rapport à ce moment-là où on a été pour présenter à l'équipe soignante. Donc c'est vrai que ça a mis du temps à se mettre en place, mais quand ça a été posé, elles, je dis elles parce que c'était beaucoup de femmes, mais elles étaient pleines, elles étaient 10-15 à venir écouter un peu sur leur temps de pause, on voit bien que ça suscitait quand même de l'intérêt et qu'elles sont venues écouter un petit peu ce qu'on faisait et en effet, elles connaissaient pas spécialement le Carud et qu'est-ce qu'on pouvait faire alors qu'on est vraiment à 200 mètres, quoi.
Et du coup ça a accroché, en tout cas c'est à ce moment là qu'elles ont désigné trois personnes, donc la surveillante plus une aide-soignante et une infirmière qui ont été entre guillemets
choisies
pour répondre au nom de toute l'équipe par rapport à ça. Donc on leur a renvoyé le doc, donc par WeTransfert parce que c'est trop lourd par mail, etc. Donc il fallait qu'elle l'ouvre, donc toi rapidement tu vois par WeTransfert si les gens ont téléchargé ou pas. Du coup on est reparti avec du temps où WeTransfert disait voilà, le délai de 10 jours a été dépensé et ça n'a toujours pas été téléchargé.
Ça
a été un peu laborieux, mais au final on a réussi à se retrouver donc avec Ben dans un endroit vraiment exigu, quoi, où il faisait très chaud. D'ailleurs on entend, moi je reste debout, quoi, parce qu'en fait on peut pas tous s'asseoir en même temps, quoi, sinon il y a un souci. Et du coup là donc on a recueilli vraiment leur témoignage. Donc on l'entend, il y a des sensibilités vraiment différentes, hein. Il y en a qui voient le boulot qui mettent pas forcément l'affectif sur la table, une autre qui elle met l'affectif sur la table parce qu'elle a toujours fonctionné comme ça. Donc on voit que ça a suscité vraiment des impressions un petit peu en tout cas ça leur a remué un petit peu l'estomac différemment selon les personnes qu'on a interrogées, quoi. Mais en tout cas ça a permis surtout qu'elles prennent conscience qu'il y avait quand même un souci, quoi, qu'elles trouvent que ce soit exagéré ou pas, elles ont quand même pris conscience qu'il y avait un petit souci au niveau de l'accueil, ou en tout cas peut-être pas de l'accueil mais au niveau de comment était perçu leur boulot par des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller se soigner, et quand ils vont se soigner, s'ils sentent la moindre réticence, ils ont tendance un petit peu à se braquer, quoi. Donc je pense qu'elles l'ont senti, quoi, qu'il y avait quand même un petit problème, quoi. Un petit cheveu dans la soupe.
Il y a des personnes accueillis et qui ont écouté aussi la première partie, donc avant qu'on enregistre le témoignage de l'hôpital du coin, et qui appréhendaient cette réaction de l'hôpital et qui avaient envie de dire mais non, mais moi j'ai toujours été très bien accueillie à du coin, qui voulait défendre aussi qui avait peur que ça soit mal pris, parce que c'est vrai qu'on réinterroge le fait que l'accueil qui peut être réservé aux personnes consommatrices. Et il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément témoigné là, mais qui avaient envie de dire à quel point elles se sentaient bien accueillies à du coin.
Et, pardon, vas-y Alice.
Ouais, bah après il suffit d'une personne. Enfin là, c'est vrai que la deuxième personne dit qu'elle est. Mais il y a toujours un petit détail qui rappelle que bon, voilà, t'es stigmatisé de toute manière. Il y a cette histoire technique de la veine avant tout, quoi. C'est ça, c'est la difficulté à prélever, donc le charcutage, le temps qui n'est pas pris. Bon, voilà, il y a ce côté technique dans les usagers par intraveineuse qui est quand même super compliqué, quoi. C'est avant tout ça, c'est pas que l'accueil, en fait, c'est aussi la difficulté de prélever, quoi, et enfin, qui porte le fait que c'est pas facile d'aller aux urgences parce que t'as des mauvaises veines, quoi, en fait, tout simplement.
Oui, et que c'est pas facile aussi, du coup, pour la personne en face
de prélever aussi, prélever, ouais. D'y arriver quand même, parce qu'on est dans un protocole, tu vas aux urgences, t'as une demande, la première chose qu'on te fait, c'est des bilans sanguins, parce que bon, on soigne plus comme au Moyen-Âge, en regardant et en suçant ou en sentant ce qui se passe, quoi. Donc du coup, bon voilà, tu rentres, on te fait des bilans et après on porte un diagnostic selon tes bilans sanguins que tu as eu rapidement. C'est ça, on est là-dedans. Donc
les bilans sanguins, c'est par intraveineuse, quoi.
Et ben oui. Donc c'est, on pourrait dire, c'est la première chose quand t'arrives, quand t'es patient, que t'as une demande, qu'on te fait avant tout, quoi. Après il y a un questionnaire, mais tu vois avant tout l'infirmière.
Et c'est là où les tensions se développent direct, puisque les gens ont quand même connaissent leurs veines, n'ont pas envie de se faire piquer à n'importe quel endroit, donc ont tendance à le dire, à se braquer un petit peu. En face, si le soignant doit y revenir 10 fois ou n'y arrive pas, ça l'énerve aussi. Et donc rapidement, ça pouf, ça voilà, tu sens que ça, enfin, ça peut clasher, ou en tout cas pas forcément être simple pour les deux côtés, quoi, surtout.
Bah ouais, hein. Puis c'est clair, il y a de la stigmatisation. Bon, déjà d'emblée, premier questionnaire. Tu vois aussi à qui t'as affaire, quoi. Donc tu te dis, oh là 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 là, un toxico, mais comment je vais faire pour prélever, tout ça va être la galère. Donc déjà, t'arrives avec des a priori, des difficultés techniques, quoi. Donc c'est lourd, même en tant que soignant. Moi, je suis pas de cette soignante caricaturale, je sais pas pourquoi nous ont envoyé cette infirmière, d'ailleurs, parce que c'est... Mais bon, voilà, quand même, je veux dire, cet acte-là, il est super difficile, quoi.
Alors moi aussi, il faut que je pique.
Et alors, tu disais qu'il y avait des personnes accueillies, hein, dans le CARU de Aide qui, avant que le son soit amené aux soignants-soignantes, avaient peur peut-être que ce soit mal pris ou que ce soit un peu dur. Et après, alors ça, c'était avant. Et après, une fois que les sons ont été entendus par le personnel soignant-soignante, quels ont été les retours et comment eux, ils ont pris ces retours, les personnes accueillies? Est-ce qu'eux aussi, ils ont fait bouger un petit peu leur vision du personnel soignant de l'hôpital du coin?
J'espère, parce que bon, après c'est toujours compliqué à mesurer réellement. Je crois que moi je suis très fière qu'on ait fait ce projet là déjà, qu'on l'ait abouti, que ça a été jusqu'au bout, tout ça. Et puis j'espère qu'on va réutiliser pour d'autres rencontres. Ça peut être un support qui peut servir pour d'autres rencontres à venir. Quand on a organisé ce qu'on appelait en off le space goûter, donc l'écoute généralisée, il y a eu pas mal de personnes accueillies à Aide qui sont venues, quelques-uns. Il y a eu beaucoup moins de personnel d'accueil.
Il n'y a eu aucune personne des urgences qui est venue. Non, c'est pas partie des urgences, ça fait partie du service où je travaille. Et alors, il y avait, on peut dire que la cadre, donc qu'on a rencontré la première fois, elle était en maladie. Donc du coup, c'est quand même un élément moteur dans un documentaire, enfin dans un projet. La cadre fait des affiches dans le service. Là, elle était pas là depuis 15 jours. Elle nous a écrit en disant, bon voilà, je suis désolée, vous allez porter la rencontre un peu toute seule. Moi, j'ai été un peu faire du lobbying. Bon, c'était pas assez. Je pense qu'il fallait vraiment que la surveillante motive l'équipe. Bon, voilà, c'était décevant. La question, c'est ça, est-ce qu'il va y avoir du monde? À la fin, bon, c'était décevant pour ça, mais rassurant, parce que du coup, voilà, tout le monde a été motivé aussi, nous, à l'intérieur du Carude, à venir. On était en équipe. Il y a eu des gens aussi, d'autres structures qui sont venues, qui ont écouté, qui ont adoré, et qui, voilà, qui vont utiliser le projet dans d'autres histoires, je pense. Bon, tout ça, c'était super, quoi. Et je pense qu'une fois que la Sorbienne sera revenue, je pense qu'il faut qu'on se repose à nouveau tous ensemble. Je pense que ça, ça c'est largement faisable. On verra à la rentrée, quand est-ce qu'elle revient. Je ne suis pas revenue de son congé maladie, je crois.
D'accord, mais c'est une histoire en cours. Du coup, l'idée, c'est encore de continuer.
Ouais, on voulait à nouveau les ressolliciter et leur dire que bon, voilà, ce serait bien... Enfin, qu'est-ce qu'elles en pensent de refaire l'expérience, quoi, de refaire un petit goûter... Un vernissage.
C'est-à-dire que le documentaire est terminé, ça c'était une étape, mais du coup maintenant qu'il y a quelque chose d'enclenché, essayer de maintenir le dialogue comme ça,
ouais.
Ou en tout cas des échanges réguliers, c'est ça l'idée ?
C'est tout à fait ça l'idée, parce que c'est pas en un coup quoi, qu'on va réussir à vraiment favoriser l'accès aux soins et favoriser le lien qu'il peut y avoir entre l'hôpital du coin et le Carude. Ça va se faire petit à petit, en effet, moi j'espère qu'on va réussir à réitérer. Et puis... peut-être que dans un an, on complétera notre reportage, quoi. On ira un petit peu plus loin avec qu'est-ce que ça a donné, quoi. On verra. Mais en tout cas, là, déjà, on a un support qui peut être réutilisable pour qu'en effet, on se rencontre à nouveau.
Ouais, ça a été, ça en fait, ça a servi. C'est bien aussi pour ça. La radio, ça peut servir d'outil ou en tout cas de comment dire de prétexte peut-être pour se parler ou pour ça fait une passerelle, quoi, en tout cas. Enfin, en tout cas. Une tentative de recréer une passerelle avec quelque chose qui est en train de se désagréger un petit peu, quoi. Ou en tout cas, il y avait d'énormes a priori, quoi. Et là, le fait d'avoir le son, tu entends réellement ce que pensent les gens, puisque ça, ils se sont, tout le monde s'est confié, quoi. Enfin, m'a dit ce qu'il avait sur le cœur, tant les soignants que les personnes accompagnées, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal là-dessus.
Vous aviez sollicité les médecins? Parce qu'on entend qu'ils ont aussi des a priori par rapport au personnel soignant. Quand ils voient, ils disent le temps d'attente avant d'être pris en charge, on voit tel ou tel personnel ou tel médecin. Et aussi, ça nous refroidit, aussi, on change d'avis, on fait demi-tour. C'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir...
Ben, en fait, on a surtout visé le service d'urgence qui reçoit. Et en fait, dans le service d'urgence, généralement, dans 90% des cas, à part quelques gros soucis, voilà, c'est surtout des infirmières aussi qui reçoivent directement les personnes, puisque c'est généralement, c'est pour des bobos. En fait, c'est pas des grosses interventions chirurgicales, quoi.
On a sollicité toute l'équipe. Ouais. D'accueil du service des urgences. Après, la surveillante est venue avec une équipe de soignants, des infirmières, des aides-soignantes, des ASH et pas de médecins. Bon, après, c'est compliqué de faire venir un urgentiste sur un temps de pause. Lui, il n'en a pas forcément beaucoup. Bon, voilà. On a eu un coup de fil à un moment donné. C'était ce truc-là de détail. Mail, en disant qu'il y avait un médecin qui n'était plus d'accord... Du coup, on a appelé, puis finalement, il a été redaccord. Bon, voilà, c'est la seule fois où on a entendu parler des médecins.
C'est vrai que ce projet-là, c'était vraiment centré sur les personnels d'accueil des urgences. C'était vraiment... Après, il faut savoir, à Aide, il y a d'autres projets qui font qu'il y a des liens qui se passent entre les médecins et les personnes accueillies. Il y a des médecins qui viennent... Enfin, on est en train de relancer ça, là, des médecins qui viennent proposer des fibroscans... directement des fibroscans, ça permet de faire un état des lieux du foie. Foie qui est particulièrement touché dans le cadre d'une hépatite C. Il faut savoir que AIDS, c'est une association de lutte contre le sida et les hépatites. C'est l'hépatite C est très présente dans la population des personnes qui consomment. Et c'est ça notre mission. Et donc du coup, il y a un médecin donc, qui revient au Carude le 12 juillet prochain, qui vient proposer des fibroscans. On a aussi quelques rencontres qui se font dans ce qu'on appelle des groupes d'entraide, donc où on propose à des médecins de venir participer à ces temps-là. Donc on essaye de... On a différents projets. Celui-ci, c'est vrai que c'était pas centré sur les médecins, mais sur le personnel d'accueil.
Ouais, puis on a des consultations privilégiées. Enfin, on passe assez rapidement, même à Joseph Ducoin, avec des médecins, quand on a besoin d'aller en urgence sur des consultations et moins de l'accueil urgence. Bon, c'est assez facile. Il y a plein de belles choses qui sont faites avec Joseph Ducoing, quoi, quand même. Il faut le dire. Quoi.
La surveillante a été, même si ça a paru très long, hein, puisque on a mis 6-8 mois à peu près pour arriver au bout, elle a été quand même réactive, quoi. Ensuite, à la mesure de la structure qui est derrière elle, hein, c'est-à-dire de l'hôpital, mais elle a quand même joué le jeu. Elle a fait le rappel des troupes quand il fallait. En tout cas, bon, ça a fonctionné, quoi. Et elle a adoré le projet aussi. Ouais.
Je trouvais que c'était vraiment une super idée. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on va relancer l'histoire, parce qu'elle n'était pas là pour le final. Je pense que ça vaut vraiment le coup de...
C'est l'étape 1, quoi.
Ouais.
D'une grande histoire qui va durer très longtemps. Jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin.
Ouais. Bon, bah écoutez, merci d'être venu en tout cas nous présenter ce documentaire. Est-ce qu'il y avait des petites choses à rajouter ou que vous vouliez dire ? Alice.
Ouais, moi je voudrais juste dire un petit truc, c'est que à l'époque du reportage, en novembre, on parle de dépistage rapide. Et à ce moment-là, on dit qu'on fait que du dépistage VIH. Or, depuis, les choses ont beaucoup évolué, parce que maintenant on propose aussi du dépistage pour l'hépatite C en version rapide. Donc ça veut dire qu'on prend pas, on est à l'étape d'avant de la prise de sang où on prend juste quelques gouttes au bout du doigt et qui nous permet aussi d'avoir un résultat sur l'hépatite C. Du coup, je voulais juste transmettre que...
Donc du coup, on vous appelle, on prend rendez-vous et dans les 2 jours qui suivent, on peut venir faire un dépistage, c'est ça l'histoire?
C'est ça. Et on a aussi des permanences sans rendez-vous tous les lundis de 6h30 à 8h au local, au 16 avenue Étienne Billière.
Oui, dans le quartier Saint-Cyprien. On peut peut-être dire un mot, puisqu'on parle de Saint-Cyprien et de dépistage, de ce combat qu'a mené ACT UP là, contre la fermeture du centre de dépistage anonyme et gratuit, hein, qui était Institut Claudius Rigaud, hein, donc du côté du pont Saint-Pierre. Ça a été fermé puisque le bâtiment dans son entier a été vendu à Kaufmann Broad. Ça, c'était en novembre. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce qu'il y avait une volonté d'essayer de conserver un centre de dépistage anonyme et gratuit en centre-ville? Est-ce que tu as des nouvelles un peu de ce côté-là?
Non, moi je ne peux pas vous dire exactement où on en est. Et je comprends et soutiens le combat d'ACT UP par rapport à l'importance d'avoir un centre de dépistage anonyme et gratuit qui soit accessible facilement. C'est important pour tout le monde. Hier, il y a une personne qui venait se faire dépister à Aide, qui était passée avant au centre de dépistage anonyme et gratuit, qui me disait que les prochains rendez-vous disponibles étaient le 10 juillet. C'est compliqué quand on est dans des situations où on a besoin de dépistage. Et ça, et c'est pas de la faute du personnel qui est là-bas, qui fait certainement ce qu'il peut. Et en effet, je le déplore. Après, je sais pas où on en est au niveau politique. Ça vaudrait le coup de en effet se renseigner.
Faire un documentaire.
Voilà, sachant que il faut le préciser, hein, ils avaient dit dans un premier temps que le centre de dépistage anonyme gratuit serait maintenu, mais qu'il serait à Purpan. Or là, on est face à des publics qui ne vont pas aller jusqu'à Purpan pour se dépister. C'était dit, hein, d'ailleurs, dans le documentaire.
Ouais, c'est exactement ça. C'est que les gens ne vont pas s'emmerder à prendre le tram, si ou ça, quoi. Ils tracent, ils sont en ville, ils ont des chiens, ils font la manche. Mine de rien, ils sont attachés à des quartiers, donc Saint-Cyprien, ça en est un quand même. Et donc du coup, s'ils ont un pépin, ils vont aller là où c'est le plus près. Et si c'est pas près, ils n'iront pas, quoi.
Alors, pour les personnes en effet qui ont des chiens, tout ça, mais c'est aussi pour l'ensemble du grand public aussi. On a tous besoin de pouvoir avoir accès à ces espaces-là où rapidement on peut venir se faire dépister. Le dépistage, c'est la seule manière de pouvoir savoir si on est séropositif au VIH ou à l'hépatite, et savoir se guérir dans le cadre de l'hépatite, et même d'avoir accès du coup au traitement VIH. Du coup, c'est important qu'on puisse, nous, en tant que société, favoriser l'accès au dépistage.
Et juste une dernière chose, je viens d'avoir un message, Ben se lève, quoi, donc il est au petit déjeuner, il nous écoute.
Gros bisous, Ben.
Benoît, donc co-réalisateur du documentaire. Une dernière petite chose, moi aussi, tu as parlé de l'émission radio réalisée avec les personnes accueillies dans ce CARUD, hein, de AIDS. Elle est évidemment toujours en ligne, hein, vous pouvez la trouver même en du site canalsud.net, ça s'appelle CARUD FM, vous ne pouvez pas la louper.
Voilà, et là ça a montré, donc si tu veux, CARUD FM et la suite en fait de cette histoire-là, c'est parce qu'on est allé traîné là-bas, qu'on a rencontré des gens, des bénévoles aussi de aide, des personnes accueillies, qui voulaient à tout prix faire une émission radio, en tout cas qui voulaient qu'on débarque là-bas, faire peut-être une émission en direct. Donc du coup, on s'est dit, on va les rapatrier à Canal. Ce qu'il y a de fabuleux dans cette histoire-là, c'est qu'il y en a certains, je pense à Aurélie, qui se sont emparés de l'outil radio, quoi, qui se sont en deux temps, trois mouvements formés, qui ont écrit, qui ont fait un synopsis pour l'émission, et du coup ça donne l'émission qu'on peut écouter sur le site, et c'est fait par des gens qui n'avaient jamais fait de radio avant dans leur vie, quoi. C'est la première fois qu'ils mettaient les pieds dans une radio, c'était à Canal Sud, ils ont fait une émission qui tient vraiment la route sur deux heures quand même. Voilà.
Aurélie qui nous écoute et qu'on salue aussi.
Oui.
Alors gros bisous Aurélie.
Allez, nous aussi, gros bisous à tous les auditrices, auditeurs. Allez, achetons tout le monde. Salut Alice, salut Eric. Et merci d'être venu avec ce docu. Et merci à Ben également.
Et merci à vous.
Allez, un peu de musique pour terminer ce magazine Stupéflip vite.
Et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel.
Moi je rase carcapac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe. Quand les lyrics frappent, mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, là qui revient mince. Tous les mardis pour te serrer la pince, donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui veut te réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou nucléaire. Alors ferme ta gueule, les argémiens marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate. Je coupe les pattes, tes pattes, encore donné. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Stupid flip vite, stupid.